Dialogue entre Congolais présenté par Alain Hirong.
Bonsoir. À l'issue de sa tournée africaine, la directrice générale du Fonds monétaire international conditionne l'assistance à la RDC, notamment par le respect de l'état de droit et le déroulement de l'ensemble de la situation politique actuelle, et en particulier de la situation électorale et post-électorale. Comment analyser cette déclaration de la directrice générale du FMI? Nous parlons de ce sujet avec comme invité François Zekouillé, économiste. Il est cadre du PPRD et conseiller principal du secrétaire général de la majorité présidentielle. Monsieur Zekouillé, bonsoir.
Bonsoir Alain Hirong.
Bienvenue Marie Bakoumania, directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. Monsieur Bakoumania, bonsoir.
Bonsoir cher confrère.
Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Lui c'est Tatine Sungani, économiste et cadre de l'Union pour la Nation au Congolais UNC, parti de l'opposition. Comme d'habitude, vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. Laurent Luesso et Lombé de Bukavu Sud Kivu. La position prise par le FMI est salvatrice dans ce pays où la loi n'est applicable seulement qu'aux faibles et jamais aux plus forts qui nous dirigent. Cette déclaration devrait pousser notre classe dirigeante actuelle à faire régner les droits et libertés fondamentaux de tous les citoyens sans discrimination d'appartenance politique telle que stipulée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Félinde, cet internaute, dit: qu'est-ce que le FMI appelle un état de droit? Si le FMI était effectivement une institution d'aide, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, elle se porterait mieux. Je considère la position du FMI, dit-il, comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Madame Lagarde doit considérer que la RDC n'est plus celle d'il y a 10 ans. Nous n'avons plus besoin de leurs prêts. Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Pour la première fois depuis son élection, il y a 6 mois, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, visite le continent africain. Après le Nigeria, elle était jeudi 22 décembre 2011 au Niger. Dans une interview exclusive accordée à notre consoeur Radio France Internationale, Christine Lagarde s'exprime sur l'impact de la crise des pays de la zone euro sur le continent africain. Répondant à la question relative à l'assistance de son institution à la RDC, la directrice du FMI conditionne cette assistance notamment par le respect de l'état de droit et au déroulement de l'ensemble de la situation politique actuelle, en particulier de la situation électorale et post-électorale. Christine Lagarde, directrice générale du FMI, répond aux questions de notre confrère Christophe Boisbouvier de RFI.
Il y a 18 mois, le FMI a accordé au Congo-Kinshasa un allègement de dette de 12 milliards de dollars pour le récompenser de ses efforts en faveur de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Mais au vu de la présidentielle très controversée du 28 novembre, est-ce que le FMI n'a pas pris cette mesure trop tôt?
Et nous suivons très très attentivement ce qui se passe sur le terrain en République démocratique du Congo. On est évidemment très attentifs, très soucieux de voir d'abord être respecté l'état de droit, la transition s'effectuer dans des conditions qui soient les plus pacifiques et les plus sereines possibles. Ça n'est pas une situation qui est très très facile, je le sais bien, nous en sommes très conscients, on suit ça au plus près et quasiment au jour le jour. Et on a en particulier ce qu'on appelle une quatrième revue de programme qui doit être imminente et on est assez soucieux qu'elle puisse s'effectuer dans les meilleures conditions.
Ça dépendra peut-être du dépouillement des législatives?
Ça dépend de l'ensemble de la situation politique actuelle et en particulier, vous avez raison, de la situation électorale et post-élection.
Christine Lagarde, directrice générale du FMI, répondait aux questions de notre confrère Christophe Boisbouvier de RFI. En réaction à cette déclaration de la directrice générale du FMI, le gouverneur de la Banque centrale a déclaré, je cite, qu'il n'y a rien de nouveau dans les déclarations de Madame Lagarde, ce n'est qu'une procédure normale chaque fois qu'intervient un changement, fin de citation. Pour Jean-Claude Massangou, quoi de plus normal que d'attendre, travailler avec un gouvernement qui sera issu de la majorité au terme du processus électoral en cours. Il a déclaré vendredi dernier en répondant aux questions des journalistes après la réunion du comité de pilotage monétaire. Jean-Claude Massangou est au micro de Daniel Tambinzoni.
Madame Lagarde s'est prononcée disant que la quatrième revue pourrait être perturbée du fait du processus électoral. Nous nous disons d'abord que la quatrième revue aurait dû déjà être passée en revue, examinée, au conseil d'administration du Fonds monétaire international. Cela n'a pas été fait. Nous manquons un décaissement d'environ 80 millions de dollars. Donc il y a déjà une perturbation. Nous connaissons d'avance que lorsqu'il y a élection, une élection présidentielle couplée avec des élections législatives, on attend qu'il y ait un gouvernement issu de la majorité de ces élections, de l'Assemblée nationale. Donc, il est tout à fait normal que pour le Fonds monétaire, et c'est ce qu'ils font d'habitude, c'est rien de nouveau, on attend qu'on termine le processus, qu'il y ait certainement un nouveau gouvernement qui doit confirmer que nous allons continuer avec le programme économique du gouvernement tel qu'il existe aujourd'hui ou tel que souhaité s'il y a des modifications à faire.
François Nzekouye, vous êtes économiste, également cadre du PPRD, conseiller principal du secrétaire général de la majorité présidentielle. Vous avez suivi Madame Lagarde, la réponse, la réaction du gouverneur de la Banque centrale, Jean-Claude Massangou. S'agit-il d'une ingérence ou il n'y a rien de nouveau?
Non, c'est une préoccupation tout à fait normale, comme l'a dit Jean-Claude Massangou, parce que logiquement, nous sommes en processus électoral qui n'est pas encore fini et il doit y avoir au préalable des préoccupations pour savoir qui sera la majorité. Y aura-t-il des remises en cause des accords que le gouvernement a pris avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ou pas pour pouvoir se décider? Donc nous disons c'est tout à fait normal. Et que les FMI a toujours dit au départ qu'ils veulent travailler avec des États qui respectent les droits humains. Et je crois que la situation actuelle n'a rien d'extraordinaire par rapport à ça. Ils veulent que la situation soit la plus pacifique et sereine. Et je crois qu'au niveau de la majorité, nous faisons tous nos mieux pour que la situation soit le plus pacifique et sereine, même si bien évidemment ce n'est pas toujours le cas du côté de l'opposition qui veut, malgré toute la bonne volonté de la partie de la majorité, créer des attitudes provocatrices qui ne mènent à rien. Donc nous estimons que Christine Lagarde n'a rien dit d'extraordinaire.
À quelle raison ou pas?
Je ne sais pas s'il faut dire on a raison ou pas. De toutes les façons, comme dit Jean-Claude Massangou...
Dit-elle la vérité ou non?
Je ne sais pas s'il dit la vérité ou non, mais j'estime qu'il a donné une opinion. Une opinion qui, à elle, et que, je crois, de mon point de vue, relève du bon sens. On doit quand même, quand on doit s'engager pour la quatrième revue qui doit impliquer 80 millions de dollars, qui doivent être décaissés par les Fonds monétaires internationaux, savoir à qui on les remet, tout simplement. Et donc, c'est, à mon avis, une attitude des bons banquiers, qui s'est dit, je vérifie quelle est la crédibilité de mon partenaire. Sera-t-il le même en qui j'ai eu confiance pour annuler la dette? Soyons quand même conscients que 12 milliards de dettes de la RDC ont été annulées par le fait que les FMI et la Banque mondiale ont eu confiance au gouvernement actuel. Se demande-t-il, est-ce que ce sera le même gouvernement ou sera le gouvernement de l'opposition qui deviendra majorité, qui risque de tout chambouler comme ils en ont l'habitude de remettre en cause tout ce qui se passe dans le pays.
Alex Thum, cet internaute, dit « Pendant une trentaine d'années, les institutions de Bretton Woods ont financé le Zaïre de l'époque sans être très regardants. Sur la situation des droits de l'homme, tout ceci n'est qu'une vaste hypocrisie pour se donner bonne conscience. » François Nzekouye.
C'est son point de vue. Moi, je ne veux pas juger très négativement le point de vue de Christine Lagarde, parce que de toutes les façons, il y a eu des turbulences ces derniers jours dans le pays liées au fait qu'il y a eu des mauvais perdants et qui ont souvent fait monter la tension dans le pays. Et donc, qu'on se dise que la situation soit sereine et pacifique, il y a de quoi, bien évidemment, s'inquiéter. Même si, bien évidemment, les forces armées et la police de la République démocratique du Congo ont réussi à contenir ces inquiétudes. Donc, je ne veux pas aller jusqu'au point d'incriminer les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, parce que moi, j'estime que ce sont les pays qui se développent, bien évidemment avec l'appui des partenaires extérieurs, mais c'est de la responsabilité de chaque pays. On ne doit pas toujours avoir tendance à croire que c'est les FMI qui a un mot à dire sur l'évolution du pays. Ils sont là pour nous appuyer selon le voie que nous choisissons librement en tant que pays démocratique et indépendant.
S'agit-il là d'une ingérence ou pas, François?
Non, je ne crois pas que ce soit une ingérence. C'est un partenaire. De toute façon, l'argent du Fonds monétaire international et la Banque mondiale appartient aux pays membres. Et donc, on ne doit pas Imaginez-vous, c'est un raisonnement par absurde, qui est trouble dans ces pays, ce ne serait pas le bon moment pour pouvoir investir l'argent du Fonds monétaire international dans les pays. Mais nous, nous disons, en tant que majorité, que nous garantissons la paix et que le déroulement du processus électoral va continuer d'être pacifique et sereine, même si nous reconnaissons en tant que majorité qu'il y a eu un certain nombre d'irrégularités dans l'élection législative et que nous avons accepté les points de vue de la CENI quant à ce qui concerne l'interruption de la compilation pour que on puisse les faire de manière beaucoup plus transparente parce que il y a quand même des candidats qui ont tenté de corrompre et donc des agents de la CENI qui se sont fait corrompre. Donc c'est une question que la majorité comme l'opposition accepte et nous sommes d'accord pour que cela soit clarifié, pour que la sérénité continue parce que le pays est serein, il est pacifique à ce jour.
Alors en disant, avant de donner la parole à Tati Nsungani, qui a déjà fait son entrée dans ce studio, en disant que ce n'était pas à nouveau François Ekouye, le gouverneur de la Banque Centrale ne minimise-t-il pas cette question?
Non, il ne minimise pas, il est réaliste. Il s'est dit qu'à chaque revue, il y a eu des conditionnalités que nous avons dû respecter. Et à ce stade, bien évidemment,
qui étaient économiques et là, elles sont politiques.
Oui, tout à fait. Ah non, elles ont été politico-économiques depuis toujours. Vous vous rappellerez que les conditions, les déclencheurs que le Fonds monétaire international avait données, il y avait aussi le respect de l'état de droit. Donc, c'est une question qui a été toujours récurrente par rapport au financement du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Donc, nous disons que ce n'est pas minimisé, mais nous disons que c'est le réalisme des banquiers qui veut avoir des garanties avant de sortir son sou, et ce n'est que normal.
Tati Nsungani, vous êtes économiste et cadre de l'Union pour la Nation Congolaise. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment vous avez reçu cette déclaration de la directrice générale du FMI?
Nous avons pris acte. Disons que je vais ici intervenir en même temps en tant qu'économiste et en tant que politique. C'est un exercice qui sera difficile et périlleux. Je vais m'y essayer. Je viens d'écouter. Je vais d'abord commencer par tout de suite répondre à votre question. C'est que les déclarations de Madame Lagarde, moi, elles m'ont un peu surpris parce que là, nous sommes le FMI a quitté le cadre politique, je veux dire économique, financier, pour entrer dans un cadre strictement politique. Parce que, comme vous le savez, nous sommes en plein revue, donc quatrième revue du PEG, et je vous signale également que nous sommes au deuxième PEG. Le premier PEG qui a commencé en 2003 a été finalement a dérapé et a été clôturé en 2006.
PEG, le programme économique du gouvernement.
Voilà. Et le deuxième PEG a été signé le 11 décembre 2009. Nous sommes donc en train de clôturer la quatrième revue. Et pour l'information des auditeurs, il faut savoir que cette quatrième revue a du mal à être clôturée parce que lors de l'assemblée annuelle du 23 au 25 septembre 2011, eh bien, le conseil d'administration n'a pas pris acte, n'a pas reconduit, si vous voulez, ou le PEG, disons la revue en question, pour des raisons de non-transparence dans le secteur minier. Je crois qu'on va pas y revenir. Alors maintenant que Madame Lagarde rentre dans le volet politique, ben nous sommes contents, parce que en entendant les déclarations ici même de la majorité présidentielle, je suis un peu étonné, quoique pas surpris du tout. La majorité dit quelque chose et son contraire. Les élections se sont bien passées, mais il y a des irrégularités, il y a des erreurs. C'est dire quelque chose et son contraire. Les déclarations de la majorité sont des déclarations d'autosatisfaction, alors que nous tous, nous savons que ces élections se sont très mal passées. Madame Lagarde parle essentiellement de deux choses. Elle parle de l'état de droit et elle parle du processus électoral et post-électoral. Parlons de l'état de droit. L'état de droit, c'est quoi, monsieur le journaliste? C'est la démocratie. L'état des droits, c'est la liberté, c'est le respect des libertés individuelles, c'est-à-dire civiles et politiques des concitoyens. L'état des droits, c'est la bonne gouvernance. L'état des droits, c'est avoir une armée républicaine qui sécurise les Congolais, pas qui les tue. C'est d'avoir une justice distributive, pas la justice des plus forts, pas la justice de ceux qui vous ont nommé. C'est d'avoir une administration sérieuse. Pouvez-vous nous dire, pouvons-nous aujourd'hui penser que nous avons un état des droits? La réponse tout de suite, c'est non. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. On empêche aux gens de parler. On coupe les SMS aux gens. On arrête les émissions des télévisions et des radios. Peut-on penser qu'il y a la démocratie? On tue les 24 morts de l'aéroport de Njili. Jusqu'aujourd'hui, la CPI qui est venue ici ne nous a rien dit. passons maintenant au processus électoral. Mais enfin, ou alors on est congolais ou on ne l'est pas. Le processus électoral était chaotique. Il y a non-respect des délais, y compris dans le chef de la Cour suprême de justice, y compris dans le chef de la Commission électorale nationale indépendante. Il y a eu respect, il y a eu non-respect des délais. Il y a violation massive des dispositions légales, notamment la loi électorale. La loi électorale parle de la publication des résultats. Or, les résultats ont été annoncés. Jusqu'aujourd'hui, le président de la CENI n'a pas brandit les procès-verbaux sur lesquels il devait normalement s'appuyer conformément à la loi électorale pour publier les résultats. Et il n'appartenait pas au président de la CENI d'annoncer. La loi parle de la publication. Je suis en train de parler sous le contrôle de la loi. Donc,
alors, Madame Lagarde a-t-elle raison ou pas, Tatin Songani?
Moi, je l'ai dit au début, nous sommes liés au FMI par des conditionnalités. Et les conditionnalités qui ont sous-tendu la conclusion ou la signature de du programme du PEC, donc du programme économique du gouvernement dans sa deuxième version, le 11 décembre 2009, les préalables étaient clairs. Si je puis très rapidement les citer, c'était principalement, un, la révision du contrat avec les Chinois, et deuxièmement, c'était l'amélioration du climat des affaires. C'est ça les deux. Et l'amélioration du climat des affaires supposait trois choses. Le développement du secteur privé, la protection de l'investissement privé direct étranger, et ensuite la transparence, la traçabilité, la gouvernance dans les secteurs des ressources naturelles, le bois, les hydrocarbures et les mines. Et les déclarations du président du conseil d'administration de la GECAMINE ont été le feu, disons l'huile qui a mis le feu. Ces déclarations ont mis l'huile au feu. Et il faut aussi se souvenir, n'est-ce pas, de ce qui s'est passé avec Sodimico et Sodefort et Fortune. Il faut se rappeler de ce qui s'est passé avec Mutanda Mining, avec Frontier, avec First Quantum. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je le cite de mémoire. Donc tout cela a fait qu'il n'y a pas eu de transport. Maintenant, Madame Lagarde a ajouté un élément de plus, qui est un élément politique. Nous prenons acte, nous saluons parce que on ne peut pas, monsieur le journaliste, parler de développement quand il y a absence d'état de droit, quand il y a un processus qui aboutit à la confiscation du pouvoir par des personnes qui sont censées protéger normalement le déroulement du processus électoral. Donc voilà, je crois, ce que Madame Lagarde a voulu dire en nous envoyant ce message que nous avons reçu 5 sur 5.
Bienvenue Marie Bakoumania, vous êtes directeur du desk économie au groupe de presse Le Potentiel. S'agit-il là d'un simple chantage? Il n'y a rien de nouveau d'après le gouverneur de la Banque Centrale et François Nzekouya abondé dans le même sens. Et c'est un signal fort d'après Tatin Songani. Quelle est votre analyse?
Écoutez, il faut pas balayer d'un revers, minimiser ce qui arrive là. Ce qui arrive est tellement sérieux que l'avenir du pays, l'avenir de l'économie du pays est en jeu. Tous les efforts entrepris depuis 2001 par le président Joseph Kabila, c'est à son actif et il faut le lui reconnaître, risquent d'être balayés d'un revers de la main. Tout à l'heure, Tati a parlé de la non-transparence dans le secteur des ressources naturelles. Je crois que pour le FMI, c'est l'effet déclencheur de comportement que nous constatons aujourd'hui. Aujourd'hui, cette déclaration de Madame Lagarde n'est qu'une goutte qui vient s'ajouter sur déjà une marmite qui était déjà remplie et qui était déjà débordée. On se souviendra à l'histoire récente de notre pays avec le PEG 1. Le PEG 1 a capoté simplement parce que on avait connu des élections et il y a eu une gestion presque calamiteuse de l'État juste à la fin, à la veille des élections. Et le FMI avait prévenu la République démocratique du Congo qu'il fallait faire très attention. Le processus électoral est une période délicate qu'il faut gérer avec beaucoup de délicatesse et avec beaucoup de responsabilité.
Donc, bienvenue à ce niveau-là, vous voulez dire qu'il y aurait des fonds que le FMI avait mis à la disposition de la RDC, mais utilisés dans la campagne, entre autres?
Non, je ne veux pas dire ça. Je veux plutôt dire que la République démocratique du Congo, qui est allée dans ce processus électoral sans le concours de la communauté internationale, il ne faut pas oublier la communauté internationale, est en difficulté actuellement. Il y a la crise financière qui bat son plein. Il faut également savoir que la même communauté internationale avait mis la main à la poche pour financer le FMI, ce qui sous-tend qu'il y a des moyens pour financer, pour accorder des facilités aux pays en difficulté comme la République démocratique du Congo. Et lorsqu'on organise des élections et qu'on connaît des dérapages, des irrégularités qu'on a connues, il y a de quoi cette institution internationale puisse se faire des soucis. Mais seulement aussi, il faut pas oublier que ces institutions internationales, depuis toujours, ils financent les développements, mais ils n'ont jamais financé un seul pays à travers le monde. Et lorsqu'il y a des occasions qui s'offrent comme ça, ils se donnent bonne conscience. Et l'argent qui était destiné à la République démocratique du Congo, parce que nous continuons à mal gérer les ressources financières revenant au trésor public, on ne pouvait que s'attendre à des conséquences pareilles. Je prends par exemple la quatrième revue. Pourquoi est-ce que la quatrième revue n'a pas été conclue? Simplement parce que les dirigeants congolais ont estimé qu'on ne devrait pas faire apparaître sur les comptes du trésor les bonus versés par différentes sociétés dans les ventes des actions. Ce qui est extrêmement grave dans le cadre d'une gestion, et une banque sérieuse, une institution financière sérieuse, ne peut pas mettre de l'argent auprès de gens qui dilapident le peu de ressources dont ils sont propriétaires de la manière que les dirigeants congolais l'ont fait jusqu'à un certain moment. Et là, la déclaration de Madame Christine Lagarde, pour moi, est une déclaration qui rappelle le gouvernement à la bonne gouvernance. Lorsqu'on parle d'état de droit, Tati s'est étendue longuement là-dessus. À mon sens, lorsqu'on parle de l'état de droit, il faut qu'on parle également de la bonne gouvernance. Il faut que les dirigeants congolais se rappellent que la bonne gouvernance doit être des rigueurs pour pouvoir bénéficier éventuellement des apports des institutions comme le FMI. L'Occident étant en difficulté, on nous dira certainement qu'on va se tourner vers la Chine, qu'on n'oublie pas que la Chine, d'une manière ou d'une autre, nous obligera de passer également par le FMI, parce que la Chine commence déjà à financer le FMI, à apporter des ressources auprès du FMI. Donc pour moi, on doit éviter les commissions, on doit éviter le pot de vin, et un mot qui est sorti de la bouche de Madame Lagarde, qui a parlé carrément en actrice politique, c'est une transition. Je ne sais pas de quelle transition elle parle, et c'est extrêmement délicat pour moi de considérer que déjà auprès des institutions financières internationales, la République démocratique du Congo serait dans une situation de transition. Et cette transition, est-ce dire que il y a encore d'autres échéances, ce que j'appellerais le troisième tour qui va se jouer quelque part, je ne le sais pas encore, mais en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, je me dis, quelque part, ce processus électoral, au lieu d'apporter un plus à la République, au lieu d'apporter le bien-être tant attendu, ce processus électoral, le deuxième du genre, risque de nous apporter plus de malheur, et Madame Lagarde m'en donne la preuve.
Et bienvenue, est-ce que peut-on dire que l'étau est en train réellement de se resserrer autour de la RDC, ou il s'agit d'un simple chantage?
Non, il s'agit pas d'un chantage. Il faut se référer à l'histoire. L'histoire récente de la République démocratique du Congo nous renseigne à une certaine époque, lorsque l'Occident, je parle clairement, lorsque l'Occident avait décidé d'en finir avec Mobutu, tout était mis en place. Et lorsqu'on regarde avec des yeux des responsabilités, avec les yeux d'un patriote, on se voit que le puzzle est en train de se reconstituer, et l'étau est en train justement de se resserrer, non pas autour de la République démocratique du Congo, mais autour des dirigeants de la République démocratique du Congo. Et là, quand je parle des dirigeants de la République démocratique du Congo, c'est pas seulement ceux qui prétendent être les grands bénéficiaires des élections du 28 novembre, ou ceux qui estiment avoir été floués par ces élections. L'étau est en train de se refermer autour de tous ces acteurs de tous les bords, de gauche et de droite. L'étau est en train de se resserrer, parce que lorsque le Fonds monétaire international ne va plus financer, la reprise ne se fera pas en un clin d'œil.
François Sekouyé, vous intervenez juste après cette réaction qui nous vient de Matadi Obakongo pour vous.
venant au Abelou de Matadi dans les Bas-Congo. Quand va-t-on finalement cesser de blesser ou de se moquer de notre population tuée à petit feu par ceux qui traitent avec les FMI? Peut-on nous dire à quoi ont servi tous les milliards de dollars que la République a remboursé depuis l'époque belge? Quelle est la part de la population après la fameuse remise de la dette l'année écoulée? Car ni fonctionnaires, ni militaires, ni policiers n'a senti les effets de cette remise jusqu'à ces jours parce que sous-payés. Pour qu'on vienne nous parler d'une nouvelle affaire FMI qui n'arrange que les signataires. N'y a-t-il vraiment pas une solution au monde pour sortir un pays de l'ordinaire en dehors du FMI?
Réaction François Zécouillet.
Oui, je partage le point de vue de notre auditeur de Matadi. Je ne crois pas effectivement que le FMI soit la planche du salut pour aucun pays du monde. D'ailleurs, bienvenue Marie Bakoumana l'a dit également. Mais simplement, nous estimons que c'est un partenaire utile. Et pour les cas d'espèce qui n'est pas à rejeter d'emblée.
Qui donne de la main droite et qui récupère de la gauche.
Pas nécessairement.
Comme disent certains analystes.
Moi, j'ai dit toujours que l'aide et l'utilité de l'aide dépend de celui qui est aidé. Si on vous donne 10 dollars, vous en prenez une bière au lieu d'acheter à manger à la maison, l'utilisation est différente. Et donc, la responsabilité n'est pas celle du FMI, la responsabilité, comme il a posé la question depuis 1960, elle est des dirigeants congolais. Et donc, nous savons qu'il y a eu une mauvaise affectation de l'aide pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, que nous avons atteint les points d'achèvement, il se pose la question de l'impact de l'atteinte du point d'achèvement sur le vécu quotidien de la population. Et nous savons quand même qu'il y a à peine 6 mois que cela est arrivé et donc on ne peut pas attendre des miracles du jour au lendemain. Nous espérons que les bénéfices vont se ressentir au courant du premier semestre de l'année prochaine où on va généraliser la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire, où on verra les salaires des fonctionnaires s'améliorer, où on verra davantage d'infrastructures de soins de santé se multiplier pour que le social et la population s'améliorent. Mais nous devons dire ici que par rapport au mot transition utilisé par Christine Lagarde, c'est un mot tout à fait normal. Nous venons d'une élection vers l'installation des nouvelles institutions. Il est d'emblée, a priori, à croire que cela peut aller dans un sens comme dans un autre. Quand il y a une élection, il n'y a pas un gagnant d'office. Donc, on peut se dire que nous passons d'une législature à une autre et, bien évidemment, cette transition, cette période, selon Christine Lagarde, devrait se passer de la façon la plus pacifique et la plus sereine. Il n'y a rien d'anormal dans un point de vue comme celui-là. Il ne faudrait pas que l'on le place dans le sens de transition en disant qu'il y a un pouvoir qui va basculer vers un autre. Et c'est simplement une période qui va durer parce que les résultats des législatives ne vont pas être publiés de sitôt. On l'attend au début janvier. On espère que ça pourra être respecté. Mais il y a les élections provinciales qui doivent venir. Il y a les sénatoriales. Donc, pendant toute cette période, il y a une espèce de transition qui se gère.
Donc, pour vous dire, comme l'a affirmé Bienvenue Bakoumania, que les taux se resserrent non seulement autour de la RDC, mais plutôt des dirigeants de tous bords, c'est un peu exagéré.
Non, c'est pas exagéré, c'est vrai. J'estime qu'aujourd'hui, nous devons avoir les dirigeants que le peuple mérite. Nous ne devons plus continuer avec des escroqueries de voix, comme malheureusement, c'est là semble être le cas aux législatives, et cela, c'est de la responsabilité des acteurs de tous bords, comme bienvenue Marie Bakoumania l'a dit. Tant du côté de l'opposition que de la majorité, on sent qu'il y a des acteurs véreux qui ne veulent pas laisser la scène politique, qui corrompent les agents de la CENI pour pouvoir acheter des voix pendant que les urnes ont parlé. Ça, c'est cet étau va se resserrer sur ces genre de politique. Nous voulons d'une nouvelle classe politique qui soit épris des valeurs éthiques et morales, que cette classe politique vienne tant de l'opposition que de la majorité. Et donc c'est sur, j'insiste encore une fois, sur ces politiciens véreux que l'étau va se resserrer et on va les mettre hors d'état de nuire parce que les Congolais ne veulent pas être escroqués. Vous imaginez qui va aller aux législatives si aujourd'hui on vous dit que Aruchuru, ce n'est plus François Zécouillet qui a été élu, c'est plutôt un autre, au moins la population sait que c'est cette personne-là qui a été élue. Donc ça va décourager les gens à aller vers les élections tant que cette situation
persiste. Et nous disons que c'est une responsabilité des individus, tant au niveau des candidats députés qu'au niveau de la CENI. Ce n'est pas une généralisation pour dire que la CENI a été corrompue, mais il y a des agents de la CENI à différents niveaux qui ont été corrompus, et il y a aussi des politiques qui sont des corrupteurs, et il faut les prendre avec les pincettes pour savoir qui est responsable de quoi.
Tatine Sungani, vous réagissez également après cet élément qui nous vient, cette réaction, pour me répéter, qui nous vient de Bukavu Sud Kivu pour vous.
Robert Baobé de Bukavu, au sud Kivu. En tant qu'un rappel à l'ordre, la déclaration de la directrice générale du Fonds monétaire international est une bonne chose. Néanmoins, c'est visiblement une déclaration qui veut justifier l'esprit capitaliste du Nord par rapport au Sud, en l'occurrence la RDC. Elle n'a donc rien de vouloir contribuer réellement à son développement. Une véritable aide ne doit pas être assortie des conditions. Où serait alors la souveraineté de la RDC?
Réaction, Tatine Sungani.
Moi, je l'ai toujours dit, dans tous les plateaux où j'ai été, le FMI, la Banque mondiale n'a jamais développé quoi que ce soit dans le monde. Donc je suis profondément hostile à la présence de ces bailleurs de fonds. Mais cela étant, ils sont là. Ils nous ont posé des conditions que nous avons respectées. Et je crois que un État sérieux, c'est un État qui respecte les engagements qu'il a pris. Et je l'ai dit tout à l'heure, le FMI a assorti de nouveau ses engagements par le respect de l'État de droit et du processus électoral. J'ai entendu tout à l'heure mon ami François, qui est vraiment mon ami, mon condisciple à l'université, parler d'un certain nombre de choses qui méritent quand même qu'on y revienne. C'est que, quant au processus électoral, il a parlé d'escroquerie, mais l'escroquerie a commencé quand? L'escroquerie a commencé quand on a confisqué les élections présidentielles du peuple congolais. Je suis désolé, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Vous me parlez des gens qui font des escroqueries pour les élections législatives et les élections présidentielles. Vous pensez qu'elles ont été honnêtes et sérieuses? Pensez-vous qu'aujourd'hui, légitimement, Joseph Kabila peut se considérer comme étant le président de tous? Parce qu'il n'est pas, il est un fait que ce n'est pas 99,99% des Congolais qui ont voté pour lui. Il y a une partie qui a fait. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de désordre qu'on ne sait finalement plus qui est président, qui ne l'est pas. Et au moment où nous vous parlons, tout le monde sait qu'il y a une crise, il y a un malaise. Mais tenez, monsieur le journaliste, il y a quand même le centre Carter. Il y a Catherine Ashton. Il y a la mission d'observation de l'Union européenne. Il y a la CENCO. Il y a l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Monsengo, pour qui j'ai le plus grand respect, un homme que je respecte, un homme respectable, même s'il ne l'est pas par la majorité. Il y a la MONUSCO. Toutes ces personnes et ces personnalités, ces institutions, ont dit que les élections n'étaient pas crédibles. Le chef de l'État lui-même a reconnu des irrégularités. Mais après avoir reconnu les irrégularités, qu'a-t-il fait? Il a laissé faire. Nous, de l'opposition, nous avions posé un certain nombre de préalables et nous avions dit que la CENI n'était pas prête pour organiser les élections. Tout le monde l'a dit. Monsieur Mulunda est passé à la télévision avec la verve qu'on lui connaît. Il a prétendu qu'il était prêt. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Nous sommes obligés, toute honte bue, monsieur le journaliste, d'attendre des experts américains et britanniques comme si nous, Congolais, nous étions des analphabètes et des idiots. Tout ça par la faute de qui? Alors moi je veux dire ceci, parce qu'il faut
mais
que...
Mais c'est vous-même, c'est vous encore l'opposition qui avez fétichisé la date du 28 et du 6 décembre dépassée.
Je pense que Alain Rung, je crois que peut-être tout en étant journaliste, il n'a pas suivi l'information. Nous avions dit en son temps, lorsque M. Mulunda nous a reçu, que les préalables n'étaient pas atteints pour réaliser les élections dans des conditions démocratiques crédible et sérieux. Nous l'avions, le document existe, je vais vous le donner, j'ai une copie. Mais cependant, c'est Mulunda qui à la télé disait les 28. Oh, le 28 a eu lieu, mais les 28 étaient catastrophiques. Alors, pour revenir
à Christine Lagarde.
Pour revenir à Christine Lagarde. Voilà. Ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que mon autre ami dit que c'est un rappel à l'ordre. C'est vrai. Bon, moi, je ne pense pas que Madame Lagarde a la prérogative de rappeler à l'ordre un État, qui est un État souverain et démocratique. Bon, il dit que c'est pour justifier l'esprit capitaliste. Je lui donne totalement raison. Parce que même lorsqu'on considère la dette, l'ardoise de la dette qui a été effacée, 12,3 milliards, dont on a fait tant de publicité ici. Et comme l'a dit M. Zekoué, même si je ne suis pas d'accord avec lui, que c'est parce que le gouvernement actuel était crédible, c'est tout à fait faux, parce que le processus a commencé bien avant. Mais c'est simplement, cet argent représente quoi? Ce sont des intérêts cumulés. Parce que lorsqu'on on parle du principal,
qui est inférieur à 2 milliards de dollars. On s'est dit qu'en fait, on a enrichi simplement les banques occidentales. Donc, c'est vrai que c'est pour justifier l'esprit capitaliste. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la RDC ne peut se développer que le jour où il aura des institutions stables. Des institutions stables ne peuvent venir que quand il y a des élections crédibles et sérieuses. Le jour où la RDC aura des acteurs politiques et des experts, je dis bien des experts, une élite sérieuse, parce que là, monsieur le journaliste, malheureusement, encore une fois, j'ai honte de le dire, nous ne sommes pas fiers des acteurs dirigeants.
Bienvenue Marie Bakoumania, il y a cette réaction qui nous vient de Mbandaka, l'Équateur pour vous.
Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko, Mbandaka, Équateur. Cela ne doit pas nous surprendre dans la mesure où notre façon de gérer le processus électoral et notre gouvernance dans l'ensemble laisse à désirer. La communauté internationale qui nous assiste est trop regardante en ces matières et ne pouvait pas cautionner cela. Il nous revient maintenant de fournir des efforts pour mériter la confiance de nos partenaires, car en ce moment, notre crédit est vraiment ébranlé.
Il nous revient maintenant de fournir des efforts pour mériter la confiance de nos partenaires. Bienvenue Marie Bakoumania. Dans ce contexte, comment?
Mais écoutez, la confiance de nos partenaires, on l'a pas perdue simplement après les élections. On les a perdus déjà lors des assemblées d'automne, lorsque c'était le FMI avait pratiquement tapé du poing sur la table pour rappeler les autorités congolaises à l'ordre. Pratiquement, on était comme des petits enfants, des petits élèves face à un préfet de discipline qui vous dit, monsieur, commencez à être transparent avec vos propres ressources, les ressources que vous mobilisez pour vous-même. Et à ce moment-là, on pourra mettre la main à la poche. Donc, le processus électoral du 28 novembre n'est venu que enfoncer une porte qui était déjà ouverte, qui était béantement ouverte, une porte qui démontrait que la bonne gestion n'était pas l'apanage des Congolais. Je le dis, la mort dans l'âme. Hein, la bonne gestion, la bonne gouvernance n'était pas l'affaire des Congolais. On l'a démontré à plusieurs reprises d'ailleurs. Et aujourd'hui que le FMI avec la directrice met en avant les raisons plutôt politiques en lieu et place des raisons, des causes plutôt économiques et des gestions, je suis d'avis que là, et celui qui a parlé de méthodes capitalistes a totalement raison, et l'Occident, hein, le néo-capitalisme, il trouve là l'opportunité pour laisser la République démocratique du Congo dans cette espèce de trou noir, hein, un consensus qui s'est fait à travers le monde que le Congo devrait rester cette espèce de trou noir pour des raisons difficiles à comprendre. Et il appartient à la classe politique de recréer justement cette confiance, non seulement envers les institutions internationales, mais aussi une confiance interne. Il faut que l'on fasse confiance à ces marchés de 70 millions de personnes, un marché qui peut nous faire en sorte que le pays ne dépende plus de l'extérieur. Malheureusement, lorsque l'on voit, on a entendu tous les programmes qui ont été donnés, révolution de la modernité, même le peuple d'abord, tout le monde voit l'Occident, tout le monde voit l'extérieur, plutôt que de compter d'abord sur les efforts à l'interne. Malheureusement, le Fonds monétaire international vient nous rappeler, vient nous remettre dans la réalité, et vient nous rappeler que nous devons fournir des efforts pour notre développement. D'abord nous-mêmes, les autres ne peuvent venir qu'en appoint. Et le Fonds monétaire international, qui a levé la voix aujourd'hui pour avancer des raisons plutôt politiques, a également dans ses manches les raisons économiques. Et vous vous rendrez compte, on peut beau refaire des élections aujourd'hui, vous vous rendez compte que le Fonds monétaire international attendra encore pour avant de mettre la main à la poche. L'autre institution sœur, la Banque mondiale, qui avait promis de financer, je prends comme ça un exemple, la construction, les réhabilitations des turbines, de nos turbines Dinga et autres, mais cette institution tarde toujours à mettre la main à la poche parce que on s'est dit, les Congolais, est-ce qu'ils vont mettre l'argent là où il faut, est-ce qu'ils vont dépenser les ressources que nous mettons à leur disposition là où ils doivent le faire? Malheureusement, très souvent, les ressources qui nous sont allouées ne vont pas à destination. Très souvent, nous exigeons même des commissions, là où il n'en faut pas.
Deux auditeurs de Kinshasa pour vous, bienvenue Marie Bakoumania, Jackson Kiyembi. La position du FMI est une position réaliste devant une situation qui ne garantisse ni la transparence ni la crédibilité. Dans un environnement douteux, le FMI a raison de suspendre son appui. La solution est unique, c'est-à-dire la vérité des urnes présidentielles comme ceux des législatives. Johnny Nfunyimbui, puissent les invités nous dire si les déclarations de Madame Lagarde ne constituent pas un désaveu de la communauté internationale au nouveau régime en place en RDC. Bienvenue.
Mais écoutez, il faut pas. Moi, je dis quand on parle du processus électoral, ben c'est le prétexte que Madame Lagarde a trouvé. Hein, la situation était pourrie bien avant. Et là, François l'a dit, mais moi j'ajoute, le FMI se pose plutôt des questions. Est-ce que on va continuer avec cette gestion que nous avions décriée au mois de septembre? Est-ce qu'on va continuer avec cette même majorité qui a dirigé le pays au mois de septembre? Ou il y aura une autre majorité qui va se constituer en contrepoids par rapport aux efforts de bonne gouvernance. Et là, s'il faut que je mette le doigt sur la plaie, on reproche, notamment à l'entourage du président de la République, beaucoup de choses, notamment dans la conclusion de certains contrats miniers. Et la communauté financière internationale se demande si les mêmes vont continuer à conclure des contrats miniers, à attribuer des blocs pétroliers, comme on a vécu pendant une certaine période, à dissimuler les bonus versés par les entreprises, les investisseurs qui viennent de l'extérieur. Ce sont là des vraies questions et l'attente, c'est justement de voir si les choses vont changer ou si on va continuer sous la même lancée, la voie de la récréation.
Il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Françoise Ekouye, qu'est-ce que la RDC doit faire pour mériter la confiance des bailleurs internationaux en guise déjà de conclusion?
Oui, moi je crois que c'est que la communauté internationale a demandé à la République démocratique du Congo, c'est de promulguer des résultats législatifs qui soient beaucoup plus crédibles. Mais je dois, avant de terminer, rappeler que une élection, c'est une compétition où parfois il y a des coqs en jambe. Vous vous rappellerez de l'élection de 2004 aux États-Unis entre George Bush, Walker et John Kerry, où on est revenu au récomptage de voix. Ce n'est pas un fait nouveau. Donc ce qui arrive dans notre pays, c'est un fait d'une compétition où parfois, effectivement, il peut y avoir des irrégularités. Mais par rapport à la présidentielle en République démocratique du Congo, les centres qui ont été cités par mon ami Tati Sungani, on dit que la fraude n'a pas affecté l'ordre d'arrivée et que les écarts qu'ils ont décriés sont autour de vingtaines de milliers au moment où l'écart entre les premiers et les seconds sont de 3 millions de voix. Donc c'est dire que nous ne devons pas contester l'élection présidentielle. Certes, le recomptage va se faire au niveau législatif, il y aura des changements au niveau des agents de CLCR, il y aura recours à différents procès verbaux qui soient de la CENI ou de la Cour suprême de justice pour établir la vérité, et nous sommes sereins, nous croyons que la République démocratique du Congo sortira de cette compétition gagnante.
Tati Sundani, conclusion.
Ma conclusion est simple, le temps est venu que ce pays soit dirigé par des gens sérieux. Pendant longtemps, je crois qu'on a un peu blagué. Comment voulez-vous que Madame Lagarde puisse adresser une aussi sévère mise en garde? Et je pense, n'ayons pas peur de le dire, comme l'a si bien reconnu un des auditeurs, c'est un désaveu. Le président a été mal élu, même si ici autour de ce plateau on dit le contraire. Les élections législatives qui sont en train de se passer sont encore un autre hold-up électoral. Il y a un malaise politique. Il ne faut pas qu'on l'occulte. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Et il y a un problème. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Il y a une gabegie financière. En conclusion, j'appelle solennellement M. Joseph Kabila, le chef de l'État, à se dépasser, qu'il se dépasse pour l'intérêt supérieur de la nation.
Merci. Bienvenue Marie Bakoumania. Décidément, quand la politique et l'économie s'entremêlent, c'est très compliqué. Vous l'avez assise, vous l'avez constaté.
Oui, conclusion. Bien sûr. Je fais une fois pour rester dans l'économique. Et je pense que le message de Madame Lagarde, on doit le prendre comme ceci. Madame Lagarde, donc le FMI, nous invite les Congolais à la transparence. Toutes les fois, nous avons vécu dans une opacité. Nous concluons des marchés dans l'opacité. Le processus électoral se passe dans une opacité telle que on ne voit rien. Et elle nous dit, avec des gens qui ne sont pas transparents, on ne fait pas les affaires. Avec des gens qui ne sont pas transparents, on ne peut pas les aider. On ne peut pas mettre de l'argent à leur disposition pour leur développement.
Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer à cette émission. Guy Maté, Samuel Kachak, Kelly Nkouté, sous la supervision de Pélé Kipela, à la technique Paulin Mouinkiew et Patrick Yassouangwa. Présentation et coordination, Alain Hiroung-Mouchinj. Au revoir.